Et cette force aveugle, une force aveugle,
et après tout, l'amour est toujours un peu aveugle, on sait bien, et on voit bien dans le fond de l'instinct qu'il y a quelque chose d'aveugle, quelque chose de si fort qui nous porte vers le bien qui est l'aliment, qui est l'autre en tant qu'il est complémentaire, pour faire que le vivant soit parfait et capable de fécondité. Il y a quelque chose de très beau, vous voyez, à voir. Et je crois qu'il faut avoir ce regard pur, limpide, réaliste, qui consiste à voir cela. Et à voir, évidemment, en même temps, qu'il peut y avoir un dépassement de cela pour une fécondité spirituelle. La fécondité matérielle, je crois, doit être pour nous comme le signe d'un amour plénier, donc d'un instinct parfait qui sera source d'une autre vie, mais qui peut être dépassé par l'esprit. Et qui est dépassé alors par une maternité spirituelle, un dévouement total aux autres. Ce que disait d'une façon très jolie le pasteur Schütz quand il disait pour faire comprendre pourquoi. Il s'était consacré totalement au Seigneur et qu'il voulait vivre une vie de célibat. Il disait, c'est pour ouvrir ses bras aux autres. C'est pour un plus amour. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas du tout pour diminuer, donc c'est pour un plus amour. C'est pour entrer, j'allais dire, dans l'instinct de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a l'instinct qui est marqué au plus intime de notre sensibilité et de notre chair, mais cet instinct est le vestige de la sagesse de Dieu, et quand Dieu nous demande de le dépasser, c'est pour quelque chose de plus grand. Je me souviens, c'était en prêchant à Kermoussa au Sénégal, chez les bénédictins, vous savez qu'au Sénégal, il y a énormément de musulmans, et alors je connaissais pas mal d'étudiants qui m'avaient demandé s'ils pouvaient suivre la retraite. Des étudiants musulmans. Alors j'avais dit oui, mais je prêcherai au moine. Hein. Alors venez me voir si vous avez des difficultés pour me dire au bout de 3 jours de retraite. Et à Kermoussa, c'était très joli. Kermoussa dépend de Solène, mais comme c'est en mission, c'est un Solène relevé et très souple. Alors il y a le couvent des moines d'un côté, le couvent des moniales de l'autre. Et comme je n'avais pas le temps de prêcher de retraite, j'avais dit aux moines. C'est vous qui devez vous déranger pour aller chez les moniales. N'est-ce pas? Les moines, c'était Marie, et les moniales, c'est Jean-Baptiste. Donc c'est Marie qui va vers Jean-Baptiste, c'est normal. Alors il y avait la petite camionnette, on peut voir ça évidemment qu'en Afrique, il y avait la petite camionnette qui le matin transportait tous les moines. C'était le prieur qui conduisait, transportait tous les moines dans l'abbaye. Mais alors il y avait les moniales qui étaient derrière leur grille de l'autre côté, une grille africaine, donc assez particulière. Et puis alors il y avait ces musulmans qui, pendant toutes les conférences, je voyais bien, regardaient les moniales, c'est très attirant pour eux, ils regardaient les moniales, ces figures de moniales qui étaient belles, qui étaient, et puis ils regardaient les moines. Alors au bout de 3 jours, ils sont venus me trouver en disant, mais comprends pas. Quand je regarde les moniales, quand je regarde la moniale, ça ferait des mariages merveilleux. toutes les conférences, ils faisaient les... Ça ferait des mariages merveilleux. Pourquoi sont-ils pas mariés? Quand même la fécondité selon la chair et le sang, c'est une volonté de Dieu. Multipliez-vous. Chez les musulmans, c'est très fort ça. Le sens de la création, le sens de la fécondité. Alors, je l'ai simplement dit, mais s'ils étaient mariés, vous ne seriez pas ici. Ben oui, s'ils étaient mariés, vous ne seriez pas ici. Vous voyez bien, cette femme, il ne vous ouvre les portes, vous pouvez venir quand vous voulez ici. Cette famille, elle est ouverte à vous. C'est une famille qui vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Alors, parce qu'elle vient d'en haut, elle est ouverte à tous. Il y a une autre fécondité. C'est très vrai que la fécondité est un absolu, comme l'amour. Et vous ne pouvez
relativiser une fécondité selon la chair et le sang qui provient de l'amour que pour une autre fécondité qui vient d'en haut. La naissance d'en haut, et la naissance d'en bas et la naissance d'en haut. Oui, c'est très important de comprendre cela. Parce que vous n'avez jamais le droit de mutiler un être, c'est-à-dire d'empêcher un être d'être parfait, s'il n'y a pas une autre perfection qui assume cette première perfection. Or, la fécondité, c'est ce qu'il y a de plus grand. Puisque c'est l'amour plénier. C'est l'amour plénier qui est fécond. Et cet amour plénier est fécond dans cet instinct pour la procréation, dans cet instinct sexuel, qui est de fait un amour qui appelle la plénitude. Il faut voir ça, la plénitude de vie. Vous ne pouvez renoncer à cette plénitude, je dis renoncer volontairement, vous ne pouvez renoncer à cette plénitude que pour une autre plénitude, que pour une autre fécondité, que pour un autre amour. Si ce n'est pas pour un autre amour, alors vous resterez toute votre vie des êtres qui seront désolés parce qu'ils n'auront pas atteint leur plénitude. C'est ça qui est très important, et c'est pour ça que c'est très beau de regarder philosophiquement ce que c'est que l'instinct. Très très grand. Vous voyez, cet appétit naturel, c'est la marque de la sagesse de Dieu au plus intime du monde physique. Il fallait que Dieu crée la matière pour qu'il puisse communiquer la fécondité de la vie. Ce qui n'existe pas dans les anges. Les anges ne connaissent pas la fécondité selon de la vie. Et la fécondité dans la vie, c'est la communication d'une vie substantielle qui devient source d'une autre vie. C'est une chose étonnante de voir ça. Et ça, c'est la marque de la sagesse de Dieu qui veut transmettre le plus profondément possible son amour. Dieu étant amour, et Dieu étant amour fécond, puisque l'être est infinité. Dieu étant amour et ayant cette fécondité, veut transmettre non seulement la vie, non seulement l'amour, mais veut transmettre la fécondité. Et il la transmet radicalement par cet instinct, qui est cet instinct vers la procréation, qui fait que deux êtres sont attirés l'un vers l'autre, sont attirés par un appétit instinctif, sont attirés vers l'un vers l'autre pour devenir une plénitude de vie. Et c'est au moment où ils sont en plénitude de vie qu'il y a un rejaillissement et une nouvelle vie, et qu'ils deviennent source de vie. Cette chose est très extraordinaire. On n'expliquera jamais. Hein. Les savants peuvent expliquer le conditionnement dans lequel se fait la fécondité, mais on n'expliquera jamais ce que c'est que la fécondité. La fécondité reste pour nous un mystère. Comment le petit grain de blé produit des quantités de grains de blé? Vous voyez, l'intentionnalité. Là, vous voyez l'intentionnalité dans toute sa perfection. Comment se fait-il que deux êtres qui s'unissent puissent y avoir à partir de là une source d'une vie nouvelle? Alors, il faut comprendre ce premier moment, cette première modalité de l'amour, dans l'amour instinctif, dans l'appétit. C'est pour ça que je viens de dire appétit. Vous voyez, instinct ne regarde plus tellement l'amour. Tandis qu'quand on dit l'appétit naturel, on veut dire justement cette tendance vers l'autre, et cette tendance, c'est le premier amour. Le premier amour du gosse, c'est vers l'aliment. Derrière l'aliment, il y a la mère, c'est sûr, on ne peut pas séparer les deux. Mais c'est quand même ce premier appétit, cette première forme d'amour. On est porté vers l'aliment. C'est important, vous voyez, parce que c'est sublimé, divinement sublimé avec l'Eucharistie. C'est la chose merveilleuse, c'est sublimé par l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'aliment divin. Et donc, en faisant ça, Dieu se sert de ce que représente cet aliment, cet appétit tout à fait élémentaire, qui est l'appétit vers l'aliment. Dieu s'en sert. Et cet appétit plus parfait, qui est l'appétit vers la procréation, c'est montrer comment Dieu communique la fécondité. Vous avez ensuite les 11 passions, 11 modalités d'amour. Si on avait le temps, on verrait les 11 modalités d'amour avec les passions. C'est facile à comprendre, du reste. Parce que vous voyez que l'amour, c'est d'abord une connaturalisée. L'amour, c'est une tendance. L'amour, c'est un repos. C'est vrai. Amour, désir, jouissance. Vous avez 3 modalités d'amour. Vous avez ensuite, parce que l'amour se réalise dans la lutte, il ne faut pas l'oublier, l'amour se réalise dans la lutte. C'est un amour qui doit être victorieux. Alors, vous avez l'amour qui se transforme en haine. C'est une métamorphose extraordinaire de l'amour. Il se transforme en haine. Pourquoi ? Parce qu'il faut se défendre contre le mal. Vous savez, la tigresse, hein ? Quand on veut prendre ses petits, il n'y a pas que la tigresse. Mais quand on veut prendre ses petits, elle devient méchante. Et elle devient méchante à cause de quoi ? À cause de son amour. Alors vous voyez cette haine. C'est beau la haine passionnelle, vous savez. C'est pas du tout la haine passionnelle. La haine passionnelle exprime justement cet état de défense que donne l'amour. L'amour nous fortifie. Et donc l'amour nous permet de lutter. Quand on aime, on accepte la lutte. Et il n'y a que celui qui aime qui accepte la lutte. Quand on n'aime plus, spiritualité de la planche, alors on ne lutte plus, n'est-ce pas ? On dégringole le fleuve comme des cadavres. Tandis qu'au contraire, quand il y a un véritable amour, alors on lutte. Et ça donne cette force. Et la haine exprime cette force, on se gendarme contre le mal. Vous voyez, et on devient une citadelle inexpugnable. C'est ça la haine. Vous voyez, c'est très très fort la haine passionnelle. C'est une chose extraordinaire face au mal. Au mal qui par le fait même qu'il est le mal, peut contaminer le bien. Le mal, c'est ce qui diminue le bien. C'est ce qui empêche le bien d'être pleinement ce qu'il devrait être. Et alors, intérieurement, la haine nous met dans cet état de défense vis-à-vis de tout ce qui pourrait diminuer en nous l'amour. La fuite, c'est encore une autre manière d'aimer. Il y a des fuites stratégiques, hein, faut bien l'oublier. Et la fuite représente justement cet amour qui, lorsqu'il sent qu'il est trop faible pour lutter, se réfugie. Vous voyez, c'est le refuge. Quand on aime, on a un petit refuge. Hein. C'est vrai, il y a un refuge. Au plus intime de notre cœur, il y a un refuge. Citadelle inexpugnable, ce que plus profond en nous, notre trésor, eh bien, on sait qu'on doit lutter pour ça. Et alors, il y a ce refuge. Alors, la tristesse, c'est lorsque le mal est victorieux. C'est encore une forme d'aimer. On pleure sur les murs de Jérusalem. C'est la tristesse. C'est encore une forme d'amour. Mais un amour qui ne peut plus vivre. Un amour qui je ne dis pas qu'il est vaincu parce que l'amour demeure. Dans la tristesse, il y a encore de l'amour. Il y a encore de l'amour. Mais un amour qui ne peut plus lutter. On est comme désarmé. C'est mystérieux, ça. Vous voyez, c'est 6 formes de l'amour dans concupiscence. Vous retrouverez la même chose dans l'irascible. L'irascible montre encore l'amour qui lutte pour être victorieux. Alors, vous aviez dans les 5 formes des passions de l'irascible, les 5 modalités de l'amour qui lutte. L'audace, c'est bien évident. L'amour nous rend audacieux. C'est bien évident. C'est pour ça que quand on aime beaucoup, on a toujours très peur un peu de la prudence qui vient limiter. On aime l'audace. Toute voile dehors, hein. C'est ça l'audace. Mais en même temps, il y a la crainte. Parce qu'on sait que la victoire ne sera peut-être pas absolue. Alors il y a la crainte. La crainte, c'est une forme d'amour qui fait qu'on sait sa faiblesse. On est craintif quand on sait sa faiblesse. Il y a l'espérance et le désespoir. C'est encore 2 formes, vous voyez, de l'amour dans sa lutte. Et puis la colère. La colère est une forme d'amour très particulière. C'est l'éclatement du combat. la colère. C'est le combat qui éclate. C'est pour ça que je viens de te dire que c'est symboliser les éclairs. C'est le combat qui éclate, la colère. La colère, c'est grand.
Il faudrait faire la théologie de colère de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans la première Alliance. Les colères de Dieu sont très très belles. Je ne comprends pas comment on l'a pas encore fait, point de vue théologique. Parce que la colère nous montre nos vulnérabilités, ce que je vous ai dit. Donc, exprime ce que on ne dit pas dans l'amour. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans l'amour. Hein. Et ce qu'il y a de plus profond, je ne dis pas. C'est ineffable. Vous dites, oh oui, j'aime, oui, mais il y a mille façons d'aimer. Chacun d'entre nous, nous sommes originaux par notre amour. Nous ne sommes pas originaux par nos fautes. Les fautes, c'est le bas de la montagne. Il n'y a aucune originalité dans notre faute. Aucune originalité dans l'orgueil. Aucune originalité dans la vanité. C'est pour ça que c'est agaçant. Mais c'est pas aucune originalité dans le point de vue de nos fautes de concupiscence. Aucune. C'est le bas de la montagne qui est aimé par tout le monde. Hein. Alors, aucune originalité. Notre seule originalité, ce sont ces pointes d'amour. Et les passions donnent l'originalité d'un être, au point de vue psychologique. Vous voyez, c'est très grand les passions, parce que les passions nous montrent des modalités, les 11 modalités de l'amour. Mais il serait beau de voir les 11 modalités de l'amour au niveau passionnel, au point de vue de notre psychisme, les arêtes de notre psychisme, hein, les pointes de notre psychisme, avec du côté de l'homme et du côté de la femme, hein, ce qu'on disait hier. C'est très intéressant à voir ça. La manière différente dont l'homme aime, la manière différente dont la femme aime. L'incarnation de l'amour dans l'homme et dans la femme. Vous avez ensuite, alors, l'amour d'amitié. L'amour d'amitié va montrer, du côté spirituel, vous voyez, du côté spirituel, ce qu'on découvre du côté instinctif. Je vous disais, l'instinct de la procréation exige l'union du mâle et de la femelle, exige l'union de l'homme et de la femme, exige la complémentarité au niveau biologique. Pas de fécondité sans la complémentarité. On voudrait bien qu'il y ait une fécondité sans la complémentarité. Parce qu'alors, en ce moment, on dirait, vous voyez, je suis source tout seul de vie. Quand on doit être source de vie par l'intermédiaire d'un autre, il y a l'humilité dans la plénitude. Il y a la pauvreté dans l'amour. Alors, est-ce que justement, l'amour n'implique pas toujours la pauvreté? Alors, on est fécond grâce à l'intervention d'un autre. Et l'autre lui-même qui intervient, il est obligé de reconnaître que la complémentarité de son amour se fait dans la femme. La femme complète, achève, elle est l'amène de l'homme, au sens très fort, elle est l'amène de l'homme, parce que l'amène, c'est justement l'achèvement, c'est ce qui prend la plénitude. Eh bien, ce qui existe au niveau de l'instinct, vous le retrouvez au niveau spirituel dans la réciprocité de l'amour. C'est ça qui est extraordinaire. La réciprocité de l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment, deux amis qui se choisissent et qui s'aiment spirituellement dans le choix et qui savent qu'ils ne sont complets, parfaits que dans leur choix mutuel. Ils savent que s'ils s'isolaient, ils ne seraient plus parfaits. Alors cet amour de choix, nous avons essayé de le comprendre hier, implique l'intention de vie pour disposer, pour montrer comment cette union affective du point de départ dans ce premier amour doit se fortifier, doit s'incarner à travers toute notre vie. L'amour d'amitié mobilise toutes nos forces. C'est ça l'intention de vie, c'est la mobilisation générale de toutes nos forces. Parce que c'est un amour qui regarde l'individu et la personne. Et donc ça prend toutes nos forces pour nous unir à l'autre dans ce choix mutuel. Oui, j'espère que vous voyez mieux comme ça les diverses modalités de l'amour et comment, au fond, l'amour est un en nous
Et l'amour, c'est quelque chose de tellement grand que quand l'amour va se communiquer à la créature, nécessairement, il est multiple. Il y a des phases multiples d'amour. Alors, on pourrait regarder aussi, j'ai oublié tout à l'heure, l'amour romantique. Ça représente quand même quelque chose. Hein. Cet amour esthétique, c'est dangereux, mais ça représente quelque chose. Ça représente que la beauté et la bonté sont toujours un peu de pair. La beauté conduit vers la bonté. La beauté séduit, mais il y a des séductions qui sont bonnes. Dieu m'a séduit. Il y a des séductions qui sont bonnes. Il y a des séductions qui sont mauvaises quand la séduction devient rivale de l'amour. Mais quand la séduction conduit vers l'amour, c'est merveilleux. Saint Thomas dit, en bon théologien, la beauté prépare le mariage. C'est très joli. La beauté séduit pour conduire à cet amour de l'époux pour l'épouse. Et c'est vrai, il y a cela. Il y a le point de vue de la séduction. La femme séduit l'homme. C'est-à-dire qu'elle l'attire. Alors, elle peut uniquement être séductrice. Alors, à ce moment-là, la séduction devient rivale de l'amour. Mais si elle le séduit pour l'attirer, et pour qu'elle puisse être son bien, alors la séduction est bonne. C'est très mystérieux, ça, et c'est très très beau. Alors ça, ce serait la forme d'amour, vous voyez, d'amour imaginatif, l'amour esthétique, qui joue toujours. Il ne faut pas dire que c'est terminé. Non, 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 jusqu'à la fin de sa vie, on aura besoin de ça. On a besoin de ce côté séducteur, très délicat, très très délicat, parce que on peut retomber dans l'imagination. On a vu hier combien l'imagination peut être rivale. Mais on peut aussi le comprendre comme quelque chose qui nous dispose. Alors, cette dernière forme, cet amour spirituel, alors je voudrais maintenant, avec vous, ça terminera un peu cette petite recherche que nous avons faite, regarder les dimensions de cet amour spirituel dans la lumière de tout ce que nous avons vu. L'esprit, notre cœur profond est fait pour aimer. Et que c'est cela qui est la dimension originale de la personne humaine. Le problème de la personne humaine. Très important. Très très important de bien découvrir ce que c'est. Il n'y a pas de personne humaine s'il n'y a plus de capacité d'aimer. C'est la capacité d'aimer qui traduit profondément la profondeur de la personne humaine. Alors c'est intéressant d'essayer, avant de regarder le problème de la personne, de regarder les dimensions de cet amour spirituel. À la lumière de tout ce que nous avons dit, à la lumière, c'est-à-dire en comprenant que cet amour spirituel cet amour fondamental a diverses dimensions. Donc il regarde le bien spirituel, c'est-à-dire la personne. Oui. C'est pour ça que je ne peux pas parler d'amour spirituel sans regarder la personne, puisque la personne c'est mon bien spirituel. J'aime la personne, j'aime l'autre, l'ami, celui que j'ai choisi, c'est une personne que j'ai choisie. C'est pour ça que ça se porte nécessairement sur une personne humaine. Alors, nous regarderons ensuite ce qu'est la personne. Je vais regarder maintenant avec vous les dimensions de cet amour spirituel. Je sais que je ne peux pas définir ce que c'est que l'amour. Je ne peux pas dire ce que c'est que l'amour. C'est vrai, ça. Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est ce brave paysan qui me racontait une fois. Il est intéressé, moi, c'est toujours intéressant de voir comment les gens racontent leur premier amour. Hein. Il avait été pris, il aimait une brave fille. Il l'avait rencontrée à l'église, je crois. Là, il était plus sûr. Hein. Alors, après la messe, vous prenez comme action de grâce, il sort. Il dit, enfin quand même, il faut que je lui dise mon amour. Il faut faire une déclaration, quand même, un jour ou l'autre. Je ne savais pas comment faire. C'est tellement difficile de faire une déclaration d'amour. Hein. on est tous dans le pétrin quand on nous amène là. C'est quasi impossible.
Parce qu'on ne sait pas si l'autre, qu'est-ce qu'il pense. Alors si l'autre dit, oh non, non, moi c'est tout à fait autre chose, alors ça me tombe flac.
Alors il ne savait pas comment faire. Alors il m'a dit cette chose admirable. Je suis sorti avec, je suis derrière, puis je lui ai donné un bon coup de poing sur l'épaule. Alors avec un bon coup de poing sur l'épaule, je pouvais lui dire, je t'aime. Vous voyez, le geste et la parole. Au fond, on ne peut pas dire qu'on aime. C'est très curieux. Il y a une espèce de pudeur très très profonde qu'on ne peut pas dire. Alors le geste aide. Il faut le geste et la parole pour exprimer l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de tellement profond, surtout quand c'est un véritable amour. Hein. Un véritable amour, quand c'est le premier amour, quand quelqu'un a déjà aimé des quantités de personnes, alors c'est plus facile. Hein. Il sait très bien. Mais quelqu'un qui a gardé un cœur pur, limpide, et qui commence à aimer le duvet du nid, hein. Et quand vous mettez votre main dans un petit nid, c'est chaud. C'est très chaud, c'est merveilleux, le duvet du nid. Notre cœur qui aime, c'est merveilleux, ça. Il ne faut pas le dire, c'est pas possible. Les intellectuels, ils croient qu'ils peuvent le dire, parce qu'ils n'aiment pas assez. Alors, ils croient pouvoir le dire. Alors, ils font une pneumatologie. Alors, à ce moment-là, ils croient pouvoir dire. Mais réellement, celui qui n'est pas un intellectuel et qui a un cœur fort, profond, alors, il sait très bien que ça ne se vit pas l'amour. Et cependant, nous avons besoin d'essayer de découvrir comme les grandes propriétés de l'amour. Quand notre cœur aime, quand notre volonté aime, commence à aimer, hein, le premier amour, le duvet du cœur. Il faut essayer de découvrir ce que c'est cette expérience tout à fait particulière où nous nous ouvrons à une personne qui nous attire, à un bien qui nous attire. Le bien, c'est ce qui attire. C'est ce que dit Aristote, il ne peut pas dire autre chose. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est comme un axiome. Le bien, c'est ce que tous désirent. C'est très ça. C'est la seule chose qu'on peut dire sur le bien. C'est ce que tous désirent. Mais oui, ce n'est pas une fiction. C'est tout simplement la propriété du bien, l'effet du bien. Le bien nous attire. On désire le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors, essayons de regarder. Ce serait très beau, vous voyez, ce serait la philosophie de l'amour. Je cherche avec vous. Parce que ça, c'est... Et ce soir, dans vos discussions, j'aimerais beaucoup que nous puissions découvrir ensemble... Je vais simplement vous mettre sur la piste. Mais que nous puissions découvrir ensemble les 10 propriétés de l'amour, les 10 dimensions d'amour. Parce qu'il y en a 10. J'en suis presque sûr. C'est assez curieux, hein? C'est assez curieux. Parce que je crois qu'il y a 10 propriétés d'amour. Au point de vue de l'amour humain, il y a comme notre cœur s'ouvre à ce bien spirituel. Alors, il y en a. Je vais en citer quelques-unes, là. J'en suis sûr, celle-là. Je cite celle que je suis sûr, et puis il est plus difficile après, je vous laisserai les découvrir. Voilà. C'est très beau de faire une philosophie de l'amour, pour terminer. Hein. La dimension de notre cœur, si on pouvait regarder un cœur qui aime, et qui est aimant. Alors, premièrement, l'amour est extatique. Ça, j'en suis sûr. L'amour est extatique. C'est-à-dire, l'amour nous permet de sortir de nous vers l'autre. On est tourné vers le face-à-face. On est tourné vers. Quand on aime, on est sorti de soi vers la personne qu'on aime. C'est notre première. L'amour est extatique. C'est Denis, le grand Denis. Ce qu'on dit ordinairement le pseudo-Denis. J'aime mieux dire le grand Denis, qui était un cappadocien, qui est un néoplatonicien, qui dit l'amour est extatique. Et Saint Thomas l'a repris. Aristote n'avait pas dit ça. Pour un chrétien, pour dire ça. On dit que l'amour est extatique. Mais c'est vrai au plan philosophique. Hein. Dès qu'on aime, on est au-delà de soi. C'est en ce sens-là que l'amour est la seule chose qui nous permet de ne plus être égoïste. Quand on n'aime pas, on sait, comme vous l'avez dit, c'est impossible autrement. Hein. Donc on est tout le temps tourné sur soi. Et on se tâte le pouls du matin jusqu'au soir. Tandis que dès qu'on aime, on se tâte plus le pouls. Plus besoin de médecin, on aime. On est extatique. Vous voyez, on est sorti de soi, on est vers le bien. Et en même temps, l'amour est une force d'accueil. Il y a les deux. C'est très curieux. L'amour creuse en nous une capacité d'accueil. Donc, c'est une force extatique qui nous fait sortir de nous, et c'est une capacité d'accueil. Il y a les deux. Vous voyez, quand vous retrouvez dans Saint Jean ce que dit Jésus, « Demeurez en moi et moi en vous. » C'est bien ça qu'il exprime. On demeure dans celui qu'on aime. On sort de soi, on demeure dans celui qu'on aime. Quand cette force extatique est parfaitement réalisée, on est fixé dans l'autre, on n'est plus fixé en soi. On sort de soi, la sortie de soi, vers la personne qu'on aime. Et en même temps qu'on sort, on accueille l'autre, puisque l'autre aussi est en extase. C'est une extase mutuelle. On aime l'autre, et donc on est vers lui. Et comme l'autre nous aime, il nous demande de recevoir. Alors il y a les deux dans l'amour. Vous voyez, deux choses qui semblent contradictoires à première vue. Hein. Sortir de soi et recevoir en soi. Ça semble contradictoire au point de vue de notre raison humaine. Et ce n'est pas contradictoire. L'amour assume les contradictions. C'est très cru. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'il n'y a pas de... L'amour est au-delà des contradictions. Et c'est en ce sens-là que la dialectique ne saisit plus ce que c'est que l'amour. Parce que la dialectique prend au sérieux la contradiction. Tandis que l'amour, non. L'amour dépasse. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. La raison, c'est la contradiction. C'est très bien, ça, c'est ça qui mesure la raison. Tandis que là, l'amour est au-dessus. Extatique et capacité d'accueil. Ça, alors, c'est facile à comprendre. Hein. Dès que vous aimez quelqu'un, vous êtes au-delà du temps. Capacité d'accueil. Vous êtes au-delà du temps. L'amour est au-delà du temps. Je ne mesure pas le temps que j'aime. Je suis quelquefois obligé de dire à quelqu'un « Je t'aime beaucoup, mais comme tu dis, je suis bien obligé, j'ai une conférence à telle heure, je dois voir quelqu'un, je donne un rendez-vous. » Alors là, oui, très bien. Vous voyez, on sait très bien, parce que l'amour demeure réaliste. Vous voyez, partir en disant « Ah, je suis en extase. » En dehors du temps. Ah, attention, ça c'est peut-être très romantique. Et en réalité, ce n'est pas aimer l'autre dans son réalisme personnel. C'est pour ça que l'amour est au-delà du temps, mais l'amour ne supprime pas le conditionnement du temps. Et quand on prétend que l'amour supprime le conditionnement du temps, on tombe dans un amour romantique, dans un amour esthétique. Et ce n'est plus le véritable amour. C'est ça qui est très extraordinaire dans l'amour. Hein. Là encore, une espèce de contradiction. Ah, il faudra situer ça, vous voyez. Je vais situer. L'amour est au-delà du temps et l'amour nous met dans le temps. Ah, c'est extraordinaire. L'éternité assume le temps sans le supprimer. Il y a quelque chose d'éternel dans l'amour. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas dire « j'aime pour la journée ». « Je t'aime pour la journée ». Mais demain, non. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour l'éternité. Alors, voyez, ce sera une des notes. Hein. L'amour est éternel. C'est vrai, l'amour est éternel. Il est au-delà du temps. Vous mettez au-delà du temps. Il ne faut pas dire éternel dans le sens tout à fait fort. Il est au-delà du temps. Je crois que vous mettez au-delà du temps. Ce n'est pas une note tout à fait première. Et l'amour est dans le temps. Vous voyez, comme il est extatique et la capacité d'accueil. Il y a là deux aspects contradictoires. Il faudra situer ça. Je vous laisse le soin de situer. Deuxièmement, je ne sais pas quel sera le numéro 1, mais 10 notes, hein, Alors, vous voyez, je les prends exprès en contradiction. En réalité, il faut en trouver cinq. Je crois que c'est la dernière, celle-là. L'amour est au-delà du temps et l'amour est dans le temps. Les deux extrêmes. Reste très beau pour ça. Extatique et capacité d'accueil, il est au-delà du temps, il est dans le temps. L'amour, à cause de son caractère réaliste, il assume pleinement notre conditionnement humain. Alors, l'amour nous rend vulnérables. Et l'amour nous rend forts. Vous l'avions vu à propos des passions. Les passions, la passion colère, l'irascible implique la force de l'amour, la conquête. L'amour est conquérant, si vous pouvez pour y mettre ça. L'amour est conquérant et l'amour est vulnérable. Alors, vous devriez peut-être mettre le point de vue conquérant avant. Il est fort et conquérant et il nous rend vulnérables. Alors, il nous rend vulnérables, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dès que vous aimez l'amour, dès que vous aimez quelqu'un, tout ce qui atteint la personne que vous aimez, vous atteint. Ça, quelquefois, on me dit, c'est terrible d'aimer. Parce que j'ai déjà assez à souffrir moi-même. Si je dois porter toutes les souffrances de l'autre, c'est pas commun. Et pourtant, c'est ça l'amour. Je deviens vulnérable à l'égard de l'être que j'aime. Et tout ce qui le touche, me touche. Et m'atteint. Ça, c'est une des choses très très belles. La vulnérabilité d'un cœur aimant. Ce qui explique aussi, voyez, comment l'homme, qui développe beaucoup sa raison, et qui développe quelquefois trop sa raison du point de vue logique, a très peur d'aimer. A très peur d'aimer. Parce que, de fait, quand il raisonne, il se blinde. La logique nous blinde. Alors, quand on est un blindé, on n'aime pas devenir un pompier. Ça, c'est même pas, on est vulnérable. C'est vrai que l'amour enlève notre cuirasse. Dès que vous aimez, vous êtes comme un tout petit enfant. Et l'homme n'aime pas beaucoup d'être comme ça. D'un tout petit enfant. C'est la vulnérabilité de l'enfant. Il est sans défense. Celui qui aime est sans défense. Et en même temps, celui qui aime est fort. Après, vous voyez, trouver les autres notes particulières. Trouver extatique, capacité d'accueil, vulnérabilité, la force de conquête, la vulnérabilité. Alors après, il faut découvrir l'amour implique en lui-même, là je tâtonne, je vous laisserai préciser, parce que ce serait intéressant à voir. Je l'ai déjà fait, mais je ne vous le dis pas. Pour vous laisser découvrir. J'ai mieux ça. C'est intéressant ce soir, vous serez ensemble, vous irez bien. Ça, c'est capital, vous voyez. C'est d'essayer de comprendre cette philosophie profonde de l'amour. Alors, vous pouvez, au point de vue chrétien, faire le même parallélisme avec les sept dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit, ça nous aide. Si on est chrétien, au point de vue des sept dons du Saint-Esprit, nous montre les sept esprits de Dieu, qui sont les sept modalités, les sept glaires de Marie, qui prennent le cœur de Marie, qui sont les sept modalités de l'amour, les sept dons du Saint-Esprit. Et les sept dons du Saint-Esprit montrent bien les modalités de l'amour. Alors ça nous aidera, je vous indique la piste, hein, ça vous aidera à découvrir les deux autres modalités. En réalité, les deux, c'est-à-dire quatre. Vous voyez, ça, c'est une recherche très importante pour découvrir ce qu'il y a de plus fondamental dans notre cœur. Alors, l'amour d'amitié n'est pas ce qu'il y a d'ultime en nous. Contrairement à la personnalité après, c'est pas ce qu'il n'y a pas d'ultime. Parce que nous sommes capables d'aimer une autre personne qu'une personne humaine. Alors, c'est la dimension religieuse de l'homme. C'est la dimension contemplative de l'homme. Et ça, je crois que c'est très important à bien saisir. Évidemment, c'est une chose qui se dit moins. Mais dans un contexte comme celui-ci, nous pouvons le dire. Et dans une philosophie réaliste, on doit le dire. L'homme est fait pour Dieu, naturellement. Il est fait pour Dieu naturellement, c'est pas au point de vue simplement surnaturel. Le point de vue surnaturel viendra perfectionner cet appétit naturel qui est en nous et qui est foncier. L'homme est un animal religieux. Il est un animal religieux parce qu'il est fait pour Dieu. Il doit découvrir sa source. Et comme l'âme spirituelle est créée directement par Dieu, nous sommes capables de remonter jusqu'à lui. Je sais très bien qu'au point de vue philosophique, je dis l'inverse. C'est parce qu'on est capable de découvrir Dieu qu'on peut remonter jusqu'à lui. Mais ici, je peux le dire, hein, c'est qu'il y a en nous un appétit naturel vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est là où on va comprendre comment cette intention de vie nous, deux amis, deux personnes qui se sont choisies, se sont aimées, comment cette intention de vie va de fait ouvrir ces deux personnes qui s'aiment vers l'autre, avec un grand A, vers l'autre, c'est-à-dire vers la personne absolue qui est Dieu. Alors, c'est là où il faut découvrir comment cette intention de vie, cet amour qui ouvre vers l'autre, c'est-à-dire vers Dieu, nous fait découvrir un nouvel amour radical et ultime qui, loin d'être rival de l'amour humain, est au contraire gardien de l'amour humain. Et c'est ça qu'il faut saisir. Parce que c'est là où on voit la caricature des idéologies athées qui nous font croire que l'amour de Dieu est rival de l'amour humain. Et alors, quand justement on fait cette caricature, on va briser l'amour humain. Je crois que si volontairement on refuse le dépassement de l'amour humain, on détruit l'amour humain. La conséquence d'un athéisme, d'une idéologie athée, voulue, pleinement acceptée, consciente, c'est la destruction de l'amour humain. C'est une des choses les plus claires, ça, et qui est intéressante à voir. Parce que c'est important pour nous, c'est peut-être un des moyens de mieux saisir ce que représentent ces idéologies athées. Toutes ces idéologies athées brisent l'amour. Et supprime l'amour. Pourquoi ? Parce qu'on est l'idéologie au-delà de l'homme. On est l'idée au-delà de l'amour. Et l'amour devient mesuré par la connaissance. C'est ça l'enjeu. C'est l'intelligence qui veut devenir mesure de l'amour. Eh bien, si on ne considère pas que l'amour d'amitié qui unit deux êtres, l'amour d'amitié, même en dehors du mariage, hein, je prends l'amour d'amitié au sens le plus vaste, parce qu'il peut y avoir des amitiés extrêmement fortes entre artistes, entre philosophes, entre savants, tout simplement entre hommes. Il y a une amitié profonde, puis alors il y a l'amitié à l'intérieur du mariage. Hein. Vous voyez, j'aurais dû, avant de faire ça, j'y pense maintenant tout de suite, voir les diverses modalités de l'amour d'amitié. Ça, ce serait très intéressant. Si nous avons le temps ce soir, rappelez-moi les diverses modalités de l'amour d'amitié. Parce que ça, c'est très important. Mais j'aime mieux tout de suite, parce que j'aime mieux, pour répondre tout de suite à ce qu'il y avait dit sur le programme, de voir comment l'amour d'amitié, qu'il s'agisse de l'amour d'amitié du mariage entre époux et épouse, qu'il s'agisse de l'amour d'amitié entre philosophes, entre artistes, entre hommes qui s'aiment, bon, cet amour d'amitié, si il ne s'épanouit pas dans une intention de vie qui est la recherche de l'absolu, c'est-à-dire la recherche de Dieu, si volontairement on se coupe de cette intention de vie et qu'on dit on sera ensemble à deux l'absolu en s'aimant, vous voyez cette espèce d'orgueil à l'intérieur de l'amour d'amitié. Alors, cet orgueil à l'intérieur de l'amour d'amitié, ou bien cet égoïsme orgueilleux à l'intérieur de l'amour d'amitié, qui n'accepte pas le dépassement, fait que tôt ou tard, l'amour humain se corrompt. Alors, comprenons bien ça, c'est important à saisir. Et je dis bien, quand c'est volontairement, parce qu'il peut y avoir une recherche et on ne trouve pas. Vous savez bien, Rostand a cherché toute sa vie. Il avait une épouse très profondément chrétienne, qui est toujours vivante du reste. Et ils s'aimaient profondément l'un l'autre. C'était un ménage extraordinairement uni. Elle, son mari l'a respectée, Rostand respectait entièrement l'attitude religieuse de son épouse et la foi de son épouse. Et alors, elle portait, elle, cette intention de vie et de dépassement. Et c'est pour ça que leur amour est resté si beau. Parce que Rostand lui-même disait « Je cherche Dieu ». Et à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il disait, c'était très, très, très extraordinaire. Parce que je connais bien de ses amis, j'ai connu de ses fils. Et il disait « Si je ne découvre pas Dieu, si je n'arrive pas à découvrir Dieu et à dépasser ma science biologique, je crois que c'est à cause de ma première éducation. J'ai été éduqué dans un positivisme.